comment vous êtes arrivé, vous, ici? Quand vous étiez petit, comment vous êtes arrivé à... vous êtes né ici ou vous êtes arrivé oui. après?
Non, je suis né à Semur-en-Auxois. Et j'habitais Toutry dans une maison que un oncle avait prêtée à mes parents. Et j'avais 4 ans quand ma mère a donc accouché de ma sœur. Et ma sœur est née le 15 février et ma mère mourait le 16 février, le lendemain. Donc il n'y avait pas les services, c'était l'hémorragie, les choses qui se pensaient qu'on n'a peut-être pas pu arrêter à l'époque. Alors ça a été très très dur, donc suite à ça, il y a eu encore un deuxième malheur qui est arrivé, puisque mon oncle a perdu son fils unique sur une table d'opération à Semur-en-Auxois, parce qu'il fait opérer de la appendicite. Donc comme il était au chemin de fer et qu'à 50 ans, il arrêtait déjà à l'époque de travailler, se retrouvant sans enfant, il a dit « moi je reviens dans ma maison, à Toutry, et bien sûr que nous étant à... Il a fallu libérer la place, donc ma grand-mère, qui avait élevé déjà un enfant, qui élevait un enfant d'assistance, pour ceux qui ont connu, qui s'appelait Paul Baudouin, donc on est revenu à Monzeron, ma grand-mère a dit à mon père, eh bien, tu viens vers nous, il y avait encore le grand-père et tout, et oui, c'était pourtant une petite maison, mais on s'est retrouvé 8 à 6 dedans. Et c'est là que ma sœur, en quelques semaines, a été prise par une tante. Et mon père a dit, de toute façon, moi, le gamin, je le garde avec moi, je ne me séparerai jamais du gamin. Et voilà, pourquoi je suis revenu à Monceau. Et j'ai grandi là. Bien sûr, je n'ai pas été drivé, comme on dit, par une grand-mère, comme par une mère. Bon, j'étais un peu livré à moi-même. J'allais à l'école un peu derrière les murs. J'étais pas très bon. Puis je me suis aperçu tard qu'il fallait que je travaille. Alors on m'a mis à l'usine après le certificat d'études. Et puis j'ai quand même réussi à avoir un CAP de tourneur, fraiseur. Et puis après, j'ai fait ma vie un petit peu jusqu'à 20 ans, quoi. Puis à 20 ans, je suis parti à l'armée, je suis reparti sur l'Algérie, je suis rentré en 63, j'ai rencontré Marie-France, il y a eu le mariage, et on a tenu à rester. Moi, j'étais très attaché, bien sûr, parce que pour mon père, pour tout ça, puis bon, j'avais pas l'ouverture d'esprit qu'un gamin a pu avoir avec une mère, donc j'étais un petit peu, comme on dit chez nous, couvé. Attention à ça, attention à ceci, voilà. Alors, Marie-France a dit, je vais... Et c'était dur d'avoir un logement à Monzon, pour ceux qui le connaissent ici. Il fallait 6 mois, voire 1 an d'attente pour avoir un logement. Un logement sans eau, sans tout à l'égout. Sans eau, sans tout à l'égout, dans rien. Donc, ce qui veut dire qu'on avait juste une lampe de 40 watts. On voyait clair, c'était déjà bien. Il y avait la cuisinière dans le fond où ça mijotait, où c'était plus la cuisine aux ciseaux comme maintenant. Voilà, donc ça c'est les souvenirs du bon vieux temps. Après je suis avec Marie-France, on a fait notre petit nid, et puis on a cherché après à partir de la cité, parce que Marie-France ne travaillait pas, et puis on voulait voir autre chose, bâtir quelque chose. Et puis je devais aller à l'usine atomique de Valduc. Et après je devais aller comme futur professeur dans les CET pour enseigner tout ce qui est mécanique, tour, fraisage. Et donc j'ai décliné toutes ces demandes, et pourtant j'avais de bons ingénieurs qui me drivaient, qui me gardaient sous l'aile. Si je ne faisais pas, il me mettait un grade au-dessus, j'étais ici et tout. Donc ici, l'usine m'a un petit peu court-circuité quand ils ont su que j'allais partir. Et puis un jour, il y a un responsable qui est venu me voir en me disant « Mais est-ce que ta femme tape à la machine ?»« à l'époque, tape à la machine ?» Non. Donc, tu lui dis qu'elle apprenne, on l'apprend à partir du 1er septembre.
Voilà. Cette usine-là ?
Dans l'usine, oui. Dans l'usine qui était l'usine Semua. Donc après, bien sûr qu'il y a eu des tas de... Si on fait toutes les... Pas dire licenciements, j'aime pas ce mot, c'est dur. Mais c'est structuration, surtout. Donc, à l'époque, ça tournait à 400 machines par mois, 350, allez, 350 ouvriers large. Hein, et il y avait beaucoup de demandes.
Quand vous dites à l'époque, monsieur le maire, c'était à peu près en quelles années ?
65.
En 65.
Et vous faisiez quoi ?
Là, c'est la fabrication de fraiseuses. Donc, c'était un groupe qui avait 7 usines au niveau de la France. Il y avait Moulins, Lisieux, Cholet, Saint-Denis, donc, et j'en passe. Et Monzon. Donc, on était un petit peu, je ne vais pas dire drivé par les autres usines, mais nous, étant au fond de la France profonde, où on travaillait en liaison avec Paris, ou je vous dis Moulins ou Lisieux, c'était déjà la ville. Donc, eux, il y avait des forces de syndicats qui défendaient certains. Pour les salaires, pour les conditions de vie, pour beaucoup de choses. Alors, mais nous, on a bénéficié finalement de ces choses-là, parce que quand c'est l'usine faisant partie du groupe, quand il y en avait un certain avantage, nous, on avait quand même, je ne vais pas dire la totalité, mais quelques miettes quand même. Ce qui nous a permis d'avoir des retraites, donc de la sécurité sociale et une retraite complémentaire, qui aujourd'hui sert bien nous a apporté un bon complément de retraite. Alors, voilà, donc, on faisait de la fraiseuse, on faisait... il partait 400 machines mois, hein, et on travaillait aussi pour l'éducation nationale. Hein. C'était des camions entiers tous les jours qui partaient de Monzon.
Il y avait à peu près combien d'ouvriers ?
Ça a monté... moi, je sais pas, mais 500, c'était 500. Mais, bon, pour être logique, en 65, quand j'ai repris, moi, de venir d'Algérie... on tournait à 250-300 personnes, quoi. Et après, de 65 à 75, mais bon, j'ai tous les documents à la maison, ça a commencé en 75 avec le choc, il y a eu un choc pétrolier, il y a eu ça. Donc, après, il y a eu le baron Ampin qui avait ses billes dans l'affaire, donc il a commencé à retirer ses actions, et puis voilà, donc ça a commencé, après, à plonger à partir de 75. Alors, c'était une grande usine, une grande famille, parce qu'il y avait tout. On prenait de la matière qui était coulée, parce qu'il y avait la fonderie, c'est notre départ, cette fonderie. De la fonderie, et tiens, j'ai revu d'ailleurs, c'est samedi dernier, un monsieur qui a travaillé à la fonderie, un monsieur, je ne sais plus, j'ai perdu son nom, et qui a travaillé 17 ans à la fonderie, Mali. Hein, et c'est Daniel Crétin, donc pour ceux qui ont connu, qu'on travaillait de ma cousine, et elle a travaillé avec ce monsieur, quoi, elle le connaissait bien. Puis elle me dit, je le reconnais, tout. Alors j'allais lui poser la question. Il me dit, effectivement, j'ai travaillé à Monzon. Donc encore aujourd'hui, des gens qui, les familles qui ont travaillé ou qui sont un petit peu éparpillés, quand on leur parle de Toutry-Monzon, ils savent de quoi ça veut dire, parce qu'ils ont eu soit un grand-père qui a travaillé ou un père qui a travaillé sur le site, quoi. Donc voilà.
On avait donc la fonderie.
La fonderie dont ils coulaient, les moules. De la fonderie, ça passe à l'ébarbage. Il y avait même, on appelait ça le modelage. Donc ils préparaient en bois le modèle et c'était recoulé d'après le modèle que Monzon faisait. Ils faisaient leur modèle. Hein. Donc modèle, modelage, coulage, ébarbage. Et de l'ébarbage, ça passait dans le second atelier, qui était l'usinage. Donc, alors là, c'était fraisé, c'était percé. Après, ça repassait sur les rectifieuses où était planifié. Et après, ça allait au montage.
Ce qui s'appelait Kharkov.
L'usine de Kharkov. Mais bon, ça, c'est aussi une grande histoire avec Philippe Bouet. Mais bon.
Alors, voilà le lien. Parce qu'on se posait la question, il y a une rue Philippe Bouet,
oui,
à Monzon.
Oui.
Alors, Philippe Bouet, vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Philippe Bouet, je vois que vous avez un catalogue, là, un livre sur Philippe Bouet.
Il habitait des châteaux et il a été maire à des châteaux.
Voilà. Pourquoi ? Je ne prenais pas ça pour argent comptant, mais c'est les anciens m'ont raconté que Philippe Bouet, il était chevalier de la Légion d'honneur, il a eu la Légion d'honneur, je crois, ou le chevalier du mérite qui a été remis à Dijon. Hein. Et il n'a jamais pu être maire à Toutry.
Et pourquoi ?
La cause, je ne la connais pas. Vous savez, les élections, les choses, non, c'est bien particulier. Mais, alors, il n'a jamais pu être maire. Et donc, il avait cette ferme à Vieux-Château, donc il était maire de Vieux-Château. Par contre, son épouse, ce qui m'a été dit, c'est qu'en 1900, dans les années 1900, c'est son épouse qui avait fait édifier la chapelle.
Ah, c'est
la chapelle qui est encore là.
La chapelle qu'on avait
visitée, là. Que, voilà, que, c'est ma chapelle, grande chapelle chère à mon cœur.
Oui.
Bon, j'espère, j'ai encore 4 ans... à la mairie, je fais des cas de fer pour qu'elle ne s'écroule pas complètement. Bon, il y a eu un projet avec les derniers Belges donc, qui ont acheté Monzeron. J'ai rencontré le président directeur général, donc, qui est M. Joricide, bon, qui est un homme très abordable et qui a des gros projets. Mais, vous savez, la conjoncture actuelle vaut ce qu'elle vaut. Ce qui est valable hier ne l'est plus demain. Alors, je reste toujours en contact, j'en ai eu encore la semaine dernière, donc vous voyez, je ne perds pas espoir, j'ai deux choses qui me tiennent, c'est la chapelle, le site bien sûr, tant qu'on pourra le conserver, mais la chapelle et la salle des fêtes. Parce que je trouve anormal qu'on voit la jeunesse comme on la voit actuellement, sur Toutry comme Monzeron comme ailleurs, et qu'on ait une salle... Parce qu'elle est superbe, cette salle. Hein. On faisait du cinéma. Moi, c'était un oncle, d'ailleurs, un autre oncle, qui faisait les séances de cinéma. Hein, donc, je connais bien le problème. Et pourquoi qu'on ne peut pas... On fait du karaté à Toutry, qui marche bien, puisqu'ils ont fait, avec Jaco Robert, les championnats de Bourgogne, même en championnat de France... donc ils sont distingués. Alors on est un petit peu étriqué dans cette salle du mid-club où les enfants des écoles vont évoluer, où il y avait le troisième âge, bon, entre guillemets, où on faut faire du karaté, où il faut faire de la danse, il faut enlever les tapis, il faut les remettre. Bon, on a acheté dernièrement quand même 3000 euros de tapis, parce que c'est des étés optionnels. Donc c'est dommage d'abîmer ces choses-là. Donc quand je vois une salle de cette dimension... où on pourrait faire des tas de choses. Bon, bien sûr, il faut qu'il y ait une équipe qui travaille dessus, parce qu'il y a l'amiante, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a... Mais en réhabilitation et tout. Alors, c'est le point. Bon, j'en ai parlé à M. Joris de cette salle, mais pour l'instant, on était plutôt axé sur la chapelle. Voilà.
Alors, M. le maire, à côté de la chapelle, moi, je me souviens, en contrebas, il y a un bâtiment et... Alors, est-ce que c'était vraiment, ça a été un ancien hôpital, là?
Oui.
Il y a eu des soins qui ont été donnés là?
Oui.
Alors ça, c'était à peu près à quelle époque?
Alors là, moi, je peux vous rapporter les paroles de mon oncle, qui s'appelait Jacques et Gabriel, où son père était cocher de M. Bouet. Ça, il me l'a dit. Et il a fait passer, c'est lui qui a eu la première automobile du secteur, et il a fait passer le permis de conduire donc au père de mon oncle. Donc il était cocher et après chauffeur de M. Bouet. Alors pour vous dire, au niveau de l'hôpital, il m'a toujours dit que c'est un hôpital, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de soins, les accouchements, les choses comme ça. Donc ils avaient fait venir des sœurs.
C'était des sœurs.
Des sœurs. Et quand il y avait des enfants un peu plus chétifs ou à surveiller un peu, ou aider les familles, bon, bah, c'était le côté social que l'on a aujourd'hui, qui était peut-être moins développé, mais qui apportait quand même un certain soutien aux familles de Monzeron. Alors voilà, après...
Alors il a fonctionné jusqu'à peu près...
Alors ça, je ne peux pas vous dire, il faudrait que je recherche. Ouais. Mais ça a fonctionné jusqu'au moment où, avec toutes ces structures et tout, et l'usine avait besoin de logements. Donc ces logements, cette bâtisse, elle a été transformée en 4 logements. Et ces logements étaient un petit peu, parce que, au grand malheur, je ne veux pas critiquer nos Japonais, ils nous ont apporté un certain souffle aussi de mécanisation, mais ils ont écroulé, ils ont éboulé ces fameuses bâtisses du directeur.
Ouais.
Au grand désespoir de nos derniers Belges, que je leur ai montré les photos.
C'est le château dont vous parlez un peu.
Voilà, ils ont appelé ça le château, parce que c'était les directeurs, M. Genbrut, que j'ai connu très longtemps, habitait donc dans le château, et autour, il y avait une maison où il y avait son jardinier, au bas, qui s'appelait Monsieur Feuchot, celui qu'on connaît. Il y avait donc Éclie Auguste, qui était mon oncle, qui était responsable du secteur électrique de l'ensemble de l'usine, où ils étaient très proches, pour quand il y avait les choses électriques qui étaient à mettre en place. Donc ils avaient tout de suite les... C'était un cercle fermé. Hein. Et après, en bout, donc, dans cet ancien hôpital, il y avait Monsieur Doton. Et ce Monsieur Doton, il était chef de la comptabilité. Il y a eu Monsieur Jovet, qui était chef du montage. Et il y a eu, bon, et j'en passe, hein, mais tout
ça. Monsieur Druet.
Monsieur Druet, qui habitait dans l'étage du château, qui était au service technique des méthodes, et qui était un grand fan de football, qui animait bien les jeunes du... Alors, vous voyez, c'était tout ce petit coin était réservé, bon, je veux dire, à la maîtrise, quoi. À la maîtrise. Et puis après, bon, il y avait toutes ces petites bâtisses qui valaient ce qui valait, qui étaient pour nous. Et puis, je ne peux pas vous dire, je ne me rappelle plus l'année, il y a eu, on appelait ça le cercle des maisons blanches, qui ont été enlevées par les Japonais, qui ont tout éboulé. Hein.
Les Japonais, c'était à peu près au plein année, ils sont venus.
Hein. Oh, fallait que je vous recherche ça. Hein. Moi, je n'ai pas toutes les... Les structures, c'était en 75, après c'est descendu 82.
Donc c'est là où ils ont commencé à détruire ce que vous appeliez
le château. Ils ont eu le château, il y avait un point restauration, enfin, point restauration, c'est le mot du jour, mais c'est pas... Il y avait une...
Cantine.
Il y avait la cantine, d'ailleurs, qui est toujours marquée cantine, et le nouveau directeur, d'ailleurs, qui a fait sa maison d'habitation... Il va garder le mot cantine. Il m'a dit, je vais conserver le mot cantine. Donc, il est très attaché à ces vieilles choses, au passé. Donc, il y avait la cantine, mais il y a aussi la coopérative.
Oui.
Parce qu'on avait la coopérative où les fûts de vin arrivaient. Alors là, je monte à vous dire que ça y allait. Quand il y avait la fonderie, les caisses de rouge, ça sortait. Hein. Mais enfin, bon, c'était dans ce temps-là. Hein. Il faisait chaud, on avait la figure au four. Donc, fallait boire un coup de rouge pour se donner aussi des forces, quoi. Donc ça, c'était comme les corons, en cercle fermé, chacun avait...
La maison qui était sur Sauvigny, entre Sauvigny et...
Alors oui, il y a aussi cette anecdote de Sauvigny où la séparation de Lyon et la Côte d'Or. Alors cette séparation de Lyon et la Côte d'Or, il y avait un grand bâtiment que les Japonais ont aussi éboulé. Et je ne sais plus la famille, il y avait M. Derbeck, il y avait...
Berland,
et tout. Mais il y a une famille...
Monchaussée.
Mais donc, il y avait une...
Perche.
M. Perche aussi. Mmh. Il y avait un appartement où la cuisine était dans la Côte d'Or et les chambres étaient dans Lyon. Voilà, donc pour se restaurer et aller dormir, on changeait de département. Ça, c'était une anecdote. Malheureusement, tout ça, c'était... Mais deux choses. Et puis, il y avait les trois salles, là aussi. Il y avait réfectoire, parce qu'il y avait des personnes qui pouvaient se permettre d'aller manger à la cantine. Pouvaient se permettre de payer un repas à midi. Et puis d'autres, eh bien, ils venaient, alors ils avaient le poêle pour réchauffer, donc ils venaient avec les gamelles. On faisait chauffer sa gamelle, et puis bon, on mangeait sa côtelette, entre midi et deux. Puis on allait boire un petit coup de blanc ou un petit coup de rouge avant de repartir à la cantine, on faisait le cercle, et puis on allait au boulot. Voilà. Et donc ils ont écroulé aussi ça. Au milieu, il y avait la salle de musique, là où j'ai commencé à faire du solfège. Malheureusement, tout ça, ça s'est parti avec le temps.
Alors, la salle de musique, tout ça, ça appartenait aussi à l'usine.
Oui, c'était...
C'est l'usine qui faisait faire de la musique dans ses...
Oui, elle avait son professeur de musique. Elle avait sa compagnie de pompiers. Il y avait des sapeurs-pompiers à Toutry, mais il y avait également les sapeurs-pompiers sur Monzon. Alors, la salle de musique... Il était très attaché, M. Boué, à sa fanfare. Il avait la clique, il avait même son harmonie. Il était très attaché. Moi, je trouve ça, c'est dommage de ne pas refaire. Bon, ben, je vous en parlerai pendant deux jours, parce que moi, mon idée, je suis en train de faire un béton dans une cabane dans mes friches pour récupérer, pour remettre une fraiseuse, une FH1, pour ceux qui ont connu les FH1, la grande fraiseuse. Et j'en ai récupéré une à Monzon qu'on m'a donnée. Et je vais la mettre à gauche pour un jour essayer de faire un musée. Voilà, alors pour en revenir, on s'écarte, pour en revenir
à l'harmonie,
ils allaient à Saint-Étienne, ils ont eu des premiers prix partout. Et j'ai encore récupéré, avant qu'ils ont cassé, je suis venu dans les... j'avais pas le droit, mais je me suis faufilé dans les... Ils avaient écroulé, quoi, dans les décombres. Et j'ai récupéré des cadres, j'ai 7 ou 8 cadres, où il y avait les premiers prix. Par contre, ils avaient une bannière avec toutes les médailles, avec tout ça, et ça, c'était volé, ça a été pillé, c'était... Donc, j'ai récupéré ça. Alors, tout ce que j'ai pu, des modèles pour la fonderie, le montage, tout, refaire un bout de musée, parce que cette mémoire, c'est avec des noms. C'est avec, on ne doit pas laisser partir ça, Monzon, c'était... Alors, c'est de revenir encore à la musique, parce qu'on chante un petit du coca-là. Donc, la musique... Il était très très attaché, et les instruments, c'est lui qui achetait les instruments. Et donc il avait l'autonomie de l'hôpital de la petite chapelle où son épouse allait prier, où tout le monde avait accès. Ça c'était important. Et il faut dire que, et ça devrait être, on n'a pas le droit de laisser ébouler tout ça. C'était moderne à l'époque, il y avait le chauffage central.
Dans la chapelle ?
Chauffage central dans la chapelle, parce qu'il faisait, il y a un sous-sol, il y a une cave sous la chapelle où il faisait le feu. Il y avait du charbon dedans, et toute la chaleur repassait par des bouches qui étaient par l'allée centrale de la chapelle. Voilà. Alors bon.
Il y avait des offices dans cette chapelle ou c'était.
Bien sûr, je reconnais. Il y en avait, oui. Il y a eu des réjouissances. Il y a eu de tout. Il y a eu des baptêmes, il y a eu des mariages, puisque un ancien maire m'a dit il n'y a pas longtemps qu'il s'était marié ici, de ce Jean Ancel, avec Monique. Oui. Donc ils se sont mariés là. Il y a eu des moments dramatiques, puisqu'il y a eu un suicide quand la rivière était en grand débord, il y a une dame qui s'est... Et vous savez, quand on est gamin, ça marque, hein, on avait les yeux sur la chapelle, parce que quand ils l'ont trouvé dans Lyon, dans la rivière, ils l'ont ramené ici et ils l'ont mis à la chapelle. Voilà. Donc on disait, c'était un briquet, pour ceux qui ont connu, je ne sais pas s'il y en a qui... ça sort de mon coin. Hein. Donc cette dame briquet, donc elle s'est échouée dans la rivière. Et ils l'ont ramené là. Donc il y a tous les épisodes de la joie au mariage, au décès, tout allait là. Quoi.
Alors quand on était gamin, qu'on habitait là, il fallait tout le temps aller dans les structures de l'usine. Quoi. Il y avait pas autre chose. Tout appartenait à l'usine ici.
Ouais, tout appartenait.
C'était
à l'usine.
Un village de l'usine, quoi, presque.
On vivait en autarcie. Il y avait de tout. Il y avait pas besoin de se déplacer. Celui qui voulait faire de la musique, il l'avait. Celui qui voulait aller se baigner, bon, il n'y avait pas les piscines. Mais il y avait le petit gour, il y avait le grand gour. Comme je vous disais tout à l'heure en arrivant, moi j'ai appris pourquoi je vais encore à la mer aujourd'hui et je suis très content parce que je dis merci. Un jour on m'a appris, on m'a jeté dans l'eau. On m'a dit, maintenant t'es là, tu reviens. Bon, je suis revenu comme j'ai pu, j'avais pas un moniteur, j'avais pas un maître nageur. Bon, j'étais Roger Lesseur qui m'a appris, qui est malheureusement décédé aussi maintenant, le Roger que vous avez tous connu. Et c'est lui qui m'a appris à nager. Allez, on nageait dans le grand gour, alors on était content parce que au lieu d'aller avant la classe promenade quand on allait à l'école, ou même adolescent, on gonflait les chambres à air de camions ou de machin, donc on se mettait là-dedans, ça nous portait. Alors il y en a qui plongeaient, il y en a qui étaient plus artistes que d'autres. Quoi. Alors voilà, donc tout ça faisait pas. Alors on avait la natation, ceux qui voulaient faire de la musique pouvaient y aller, celui qui pouvait aller aux pompiers pouvait y aller. Bon, les pompiers c'était déjà plus avant, ça s'est arrêté parce que Toutry a repris le relais après. Hein. Mais
il n'y a jamais eu d'école quand même dans cette usine.
Mais moi je ne suis jamais allé à l'école à Toutry. Je suis allé à l'école à Monzon. Il y avait des écoles.
Des classes.
Oui, il y avait Madame Chenot qui a pendant des années a enseigné. Donc Madame Chenot était dans les primaires, je crois. Et puis Monsieur Chenot était responsable, chef du fraisage. Toute la partie fraîcheuse à Monzon. Donc, vous voyez, il y avait déjà... Donc, je marie et la dame travaillait. Et alors, c'est là que ça a commencé un petit peu, où les couples ont travaillé, parce qu'il y avait les bureaux, il y avait... même les dames, il y a Madame Grolet, qui est partie il n'y a pas longtemps, qui travaillait sur un pont à la fonderie. Il y avait des personnes qui étaient à l'ébarbage, et c'était du féminin, sur des machines à fileter ou... à faire des vis, choses comme ça, c'était des femmes. Peu, mais il y avait des femmes. Et puis tout le service contrôle, parce que toutes les pièces qui étaient fabriquées étaient contrôlées. Donc c'est avec des tables où on mesurait les diamètres, les épaisseurs et j'en passe. Donc ça, c'était aussi fait par des femmes. Donc, et puis il y avait tout le service des bureaux, je dirais. Donc il y avait beaucoup de couples qui commençaient à travailler, qui leur a permis, on les retrouve encore aujourd'hui, ils ont même plus âgés que moi, et ils ont construit leur pavillon sur toute rue. Parce qu'il y avait eu deux salaires. Et puis il y avait aussi, on a vu, l'envolée de la voiture. L'envolée de la voiture, moi je me souviens, il y avait peu de voitures. Il y avait le directeur, bien sûr. Il y avait monsieur Lequeux, qui était mon instituteur, qui avait une traction. Il y avait monsieur Jovet, qui était bien sûr chef, responsable du montage. Il y avait monsieur, que je me souviens, en voiture, voisin. Il avait aussi travaillé tous les deux. Hein. Alors, je ne sais plus comment c'était cette marque de voiture. On appelait ça le cul-de-puce, nous. C'était la petite voiture avec le pointu derrière. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de cette voiture. Et bon, vous voyez, alors il n'y avait pas de voiture. Quoi, le monde ouvrier n'avait pas de... Il y avait le bus. Il y avait le Citroën qui passe toujours. Alors, on faisait la semaine de travail, 10 heures par jour, voire le samedi matin, pour ceux qui voulaient. Donc là, il n'y avait pas de jalousie sur le travail. T'as envie de travailler, tu viens, tu as des heures supplémentaires. Et d'autres disaient, aujourd'hui, je vais faire la fête. Bon, le samedi matin, ils allaient avec le sac à main à l'arrêt du bus à Toutry et en direction d'Avallon. Et ils allaient faire la foire d'Avallon. Ah voilà, on venait avec des petites choses et on faisait son petit marché sur Avallon, voilà. Bon, ça mériterait d'être plus dans l'ordre et puis plus...
Ce qui est intéressant, bon, c'est vrai que vous parlez souvent du fort à puce.
Oui, allez, je resterai sur le fort à puce, parce que moi, bon, c'est un mot péjoratif que je n'aime pas.
Non, mais c'était comme ça.
Pourquoi? Parce que justement, là, déjà, on commençait comme... Je pense que ça, c'est encore aujourd'hui. On dit, là, c'est les classes. Et moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça parce que pourquoi on me dit ils sont au fort à puce parce que c'est un manœuvre, c'est un gars qui est machin, c'est un gars ceci, c'est cela. Il a 7 6, 7 8 gosses. Moi je suis toujours entendu dire que Monzeron, puisque vous me disiez qu'il n'y avait pas d'école sur Monzeron, si il y avait des écoles sur Monzeron, puisque trois familles, et tu en faisais partie, pense à l'époque, hein, trois familles remplissaient une classe. Je me suis déjà dit. Mais il y avait environ 7, 8, 9. Il y avait 7, 8, 9 enfants.
Ça faisait déjà 32 avec 30.
Voilà, donc avec l'étalement, bon, il avait été peut-être diversifié, puisqu'il y avait trois classes.
Il y avait trois classes et des quatre.
Voilà, je me rappelle bien, il y avait trois classes.
Il y avait la classe des grands et des petits.
Voilà, il y avait trois classes, voilà. Donc, vous voyez, donc c'est pour ça qu'on disait, on va les mettre au fort à puce. On voit les bêtes au fort à puce. Alors, il y avait, comme je disais, mon oncle, il habitait là, c'est pour ça que moi, j'étais tout près du directeur. J'allais souvent jouer dans ce château où il y avait des parquets en chevrons, il y avait des choses merveilleuses. Parce que c'était un petit peu la maîtrise, donc on la mettait là. Nous, on était au milieu, donc on nous mettait dans les pavillons. Hein. Et puis après, on dit, on va monter les maisons blanches pour remettre les cadres ou les choses comme ça. Alors, je pense qu'il fallait faire un maillage de tout ça, même à l'époque. Et puis essayer de d'amener tout le monde à être un petit peu dans la participation au niveau du village. Quoi.
Pour moi qui ne suis pas d'ici, le fort à puce, c'est un lieu dit, c'est quoi? C'est un bâtiment?
C'est la cité de Monzeron, comme là on appelait la cité ici. Mais ils ont monté sur le haut parce qu'il n'avait pas de, il y avait pas
ça
d'endroit.
C'est la cité du haut.
Pardon ?
Ça se disait la cité du haut.
Voilà. Voilà, on dirait que c'est la cité du haut.
On a dit fort à puce parce qu'il y avait autant de chiens que de chats et que de gosses. Et puis c'est les gens, ils ont dit fort à puce et puis c'est resté. C'est resté.
Voilà, donc. Vaste débat. Mais je crois que vos réunions, c'est très bien, puis c'est très bien que vous participiez. Moi, je suis très content.
Je suis à fond de savoir.
Très content que vous participiez. Et moi, j'aimerais bien justement qu'il y ait un groupe qui travaille dessus, et moi, je suis tout prêt, parce que j'ai vraiment pas le temps de travailler sur un bout de musée, ce chose comme ça. Mais j'ai pas de salle pour mettre. C'est pour ça que je vous dis, je suis en train de faire un béton dans un bout de cabane pour essayer de mettre cette fraiseuse. et puis de récupérer un jour, de me mettre en chasse pour avoir, parce que c'était les machins qui étaient construites dans certaines années, avec un télédirecteur, combien on en faisait, tout ça. Donc, parce que moi, je voulais écrire un petit bouquin avec des cartes postales, l'illustrer. Puis remettre des noms, des choses fortes de moments où ça a plongé ou tout ça. Non, mais j'ai pas le temps. J'en ai haut comme ça de documents.
Et alors, moi j'ai une question, c'est parce que ça, c'est étonnant quand je suis arrivée là pour la première fois il y a un mois, d'imaginer qu'il pouvait y avoir 300, 400 ouvriers qui travaillent dans l'usine, beaucoup de monde, parce que ça a l'air vide aujourd'hui, c'est très vide quand même ce lieu aujourd'hui. Comment ça s'est passé la transition entre le moment où ça marchait et puis le moment où ça s'est cassé la figure, comme vous dites? Pourquoi ça s'est cassé la figure déjà? Et puis ensuite, quelles répercussions ça a eu sur les habitants de Montzon?
Pourquoi ça s'est dégradé? Comme je vous disais, on travaillait un petit peu sur ses acquis. Monzon a toujours, je pense, travaillé sur ses acquis. Le bureau d'études n'était pas sur Monzon. Nous, c'était la fabrication. Le bureau d'études, il était sur Paris. Oui. On appelait ça Saint-Ouen. Donc là, c'est les têtes pensantes qui étaient là-bas, qui nous envoyaient les plans. Ils disaient, voilà, bon, vous allez faire. Avant, il y a eu... Mais remontons pas dans le temps, parce que pendant la guerre, ils ont fait aussi de l'armement. Et on a construit des motoculteurs ici. On a fait plein de choses. Mais restons dans le côté machine-outil. Bon, parlons même pas de Bouet, parce que Bouet, c'était, il faisait c'est lui qui a eu l'idée, le premier, de construire des machines en série. Oui, donc, mais restons sur la fraiseuse. Et on s'est endormi, pour moi, on s'est endormi. On a dit, oh ben, ça va bien, on en vend à l'éducation nationale 3000 par an. Pour moi, les têtes pensantes n'ont pas dit qu'est-ce qui se fait ailleurs. Ils n'ont pas vu le monde qui s'ouvrait. Alors ça, c'était le tour, la fraiseuse, les perceuses. Ça, c'est de la machine conventionnelle. Alors, des tours, moi, quand je suis rentré, on m'a mis sur un tour, justement. Il y en avait 50, quoi. Entre 40 et 50, des tours. Il y avait une vingtaine de fraiseuses. Alors, chacun faisait tourner, chacun fraisait, voilà. Et puis, on s'est aperçu que les centres d'usinage, c'était peut-être l'avenir, qu'il ne fallait plus changer de machine, voilà, de faire une seule machine où on fraisait, où on perçait, où on taraudait, voilà. Alors, on dit, tiens, oui, c'est mal. Alors, les bureaux sont d'études, ont dû se pencher là-dessus, et ils ont sorti la FN 122, avec une commande numérique, et ces commandes numériques, au lieu que ce soit le manipulateur, l'ouvrier, c'était la machine qui se déplaçait elle-même, de par une bande perforée qu'il a commandée, et avec un changeur d'outils. Il y a un grand magasin d'outils où le bras venait chercher l'outil, le remettait dans son logement, venait usiner, le changeait. Et ça, c'était par une bande perforée. On était resté là, et puis après, il y a eu les premières commandes numériques qui devaient être bref. Voilà. Alors après, on a périclité là. Mais on travaillait avec les Japonais, puisqu'ils nous vendaient des rectifieuses. Et puis bon, ils ont senti peut-être devant venir, je ne sais pas comment ça s'est fait. Voilà. Donc ils se sont dit, tiens, on est partie prenante pour prendre des parts sur la société Somua. Donc ils ont pris 30%. De part, ils ont commencé à amener leur technique. Mais leur technique, eux, ils avaient des commandes numériques FANUC. Là, au début, c'était San Giorgio, c'était avec des télés qui venaient du numérique qui venait d'Italie. Et là, ils ont amené leur machine et leur technique avec leur FANUC. Et on a travaillé là-dessus. Et ils ont enlevé tout ce qui était un petit peu conventionnel, ils ont fait du ménage. C'est là qu'ils ont commencé à enlever. Ils ont dit, voilà, bon, au lieu d'avoir 300 personnes, nous, les bâtiments, ça ne nous intéresse pas. Nous, on est vendeurs de machines, on est constructeurs de machines. Bon, moi je pense que c'est le moment où ils sont arrivés où l'ouvrier a été le moins considéré. Peut-être que, bon, ils ont sauvé certaines choses parce qu'il fallait changer les techniques. C'est comme aujourd'hui, il faut faire des réformes. Oui, il faut faire des réformes, mais quand on fait des réformes, ça fait mal. Voilà. Donc, il savait qu'ils ont enlevé une certaine... De l'usine, ils ont remonté les bureaux neufs qui sont aujourd'hui existants et qui servent bien d'ailleurs, parce qu'il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait plus rien du tout. Alors bon, d'un côté, voilà. Mais je pense qu'ils ont trop... pour moi, bon, les bâtiments, on peut toujours avoir un regret sur, comme on dit, sur ce château ou ce qu'on voudra. Moi, je l'aurai toujours. Mais je pense sur les hommes, ça a trop cassé, quoi. Ça a cassé et puis ça fait beaucoup de mal à chacun, quoi,
c'est ça, cette époque-là, il y a quand même dû y avoir un grand moment de déprime, il y a un Manseron, parce que tout le monde était
moi, je me rappelle, mon père, puis mes parents, ils avaient fait la grève. Avant que l'usine ferme, ils avaient...
Manifestation.
Le directeur, une journée, je crois, ou une nuit.
Oui, il y a eu des grosses grèves. Ouais. Mais alors, ce qu'il y a, ils l'ont fait pas à pas, quoi. Ils n'ont pas dit on coupe carrément, quoi. Ils ont temporisé, quoi. Ils ont travaillé le personnel psychologiquement, petit à petit, ils les ont amenés. Vous savez, la fonderie, elle est plus rentable. Vous voyez, on trouve des arguments. Bon, ben, c'est pas grave, les autres. Moi, je ne suis pas touché, donc on enlève la fonderie. Bon, après, on dit, il n'y a plus de fonderie, on va enlever le modelage. Bon, alors, c'était 80 personones. Mais bon, j'ai les documents à la maison, les dates et tout. 80. Après, on enlève ça un peu. Après, on dit, ça, on n'en a plus besoin. Le service électrique, on n'en a plus besoin. Alors, vous voyez, petit à petit, on a mordu, jusqu'au moment où, là, ça a fait mal, il y avait eu les grèves qui étaient un peu plus virulentes, où ils ont attaqué le montage et l'usinage. Enfin, l'usinage et montage. Parce que là, ça fait mal. Hein. Là, ça fait... Moi, j'ai connu 5 ou 6 restructurations et licenciements. Ouais. Je suis resté le dernier. J'étais à l'outillage quand les Belges, c'est les Belges qui avaient repris, qui faisaient de la machine à bois. Il y avait une différente succession de ventes. Et les derniers, on était 15. Moi, quand j'ai été... ils sont remontés à 25, quoi, mais bon... On comptait 25 ouvriers. Mais moi, je suis parti à 57 ans et 3 mois parce que j'ai pu bénéficier. J'avais travaillé pendant 43 ans, puisque depuis 14 ans sans interruption, à part, monsieur, on est deux en Algérie. Donc, ça m'a permis, de par cette loi, de pouvoir bénéficier de prendre ma pré-retraite. Ça plaisait bien parce que je suis rentré à la mairie suite à ça, donc un peu... Ouais, ça,
et ces gros, parce que j'ai fait bien, mais bon. Ces gros mouvements de grève, c'était en quelle année à peu près?
Ça a démarré en 75, après 80, 85, je pourrais vous donner les dates des fermetures.
Vous avez compris, ça fait du mal.
85.
On a été obligé de quitter Toutry,
oui.
Enfin Monceron, pour se retrouver aux HLM.
Voilà, 85.
On a été obligé de...
C'est quelle année que au niveau des maisons, ça a été revendu aussi au foyer Dijonais pour des restructurations, pour accueillir...
Alors là, d'après ce que j'ai pu dire, moi je n'ai jamais parlé avec l'ancien maire, qui était à l'époque Jean Ancel, de cette chose-là. Mais il m'a été rapporté qu'à l'époque, quand ces fameux Japonais, et Belges, mais les Japonais sont arrivés, eux, c'était dans leur idée. Hein. Alors ça, c'est à voir, mais je pense que Ancel serait mieux placé que moi pour vous le dire. Ils voulaient enlever la cité, apparemment. Ils voulaient tout raser. Ils voulaient tout raser, plus rien. Ils voulaient que de l'usinage. Enfin, les bâtiments d'usine, c'est tout. Le personnel, on rase tout. Voilà. Alors, il m'a été dit que, je pense que c'était M. Plessard qui devait être directeur à l'époque... Plessard avec Ancel devant le maire, donc ils sont... Et ils ont dû, je pense, faire pression pour dire, attendez, gardez, je ne sais pas, la chapelle ou la salle, et puis on pourrait les restructurer, choses comme ça. Bon, la commune a dû faire une exemptée de tas de... Enfin, le foncier pendant 15 ans, je crois. pour qu'on puisse les conserver. Donc la commune a dû faire un geste à l'époque, qui est bien d'ailleurs, parce qu'il n'y aurait plus rien aujourd'hui, à mes yeux. Et puis, c'était pas vendu, mais il y a eu un bail amphithéotique de fait qu'apparemment, bon, moi j'ai jamais eu le document, mais qui serait de 55 ans.
Voilà. Pour la cité
Pour toute la cité, voilà. Donc pendant 55 ans, c'est le foyer dijonnais qui a pris donc l'ensemble, qui l'a rénové, qui a réhabilité, qui a tout, et qui loue, c'est à tout le monde, tous ceux qui veulent. C'est pratiquement pris, à part peut-être un ou deux, là, mais bon, non, ben, ça dépanne, c'est sûr que ça dépanne. Aujourd'hui, on cherche du logement, bon, c'est pas merveilleux, mais quand même, c'est
mieux que d'être dehors.
C'est mieux, voilà, c'est mieux que dehors. Donc, je pense que c'est ces personnes-là, en tant que M. Ancel et M. Plessard à l'époque, qui ont dû se mettre un petit peu en travers, arrêtez conservez-nous encore.
Ça serait dans les années 75, au moment où les Japonais
voilà.
ont pris et que ça a commencé à payer.
Voilà.
C'est un peu la cité du haut, ça c'est le château.
Par contre,
château,
la bibliothèque, il y en avait une dans le temps.
Il y avait une très belle bibliothèque qui était un petit peu drivée par le comité d'entreprise.
Oui.
Et ça, c'était... Donc, ils l'ont mise dans les anciennes chambres où il y avait les apprentis, les chambres de célibataires, entre guillemets, voilà. Ils avaient tout emmagasiné là-haut. Et puis, quand je voyais, moi, j'étais toujours très près, surtout quand je suis rentré à la mairie, j'avais certaines portes ouvertes où je pouvais avoir des échanges avec les directeurs, tout ça. Puis un jour, j'avais parlé, je disais que je savais, mais bon, j'ai senti que la bibliothèque, ça n'intéressait pas. Donc, je me suis permis de leur demander est-ce que je peux récupérer certaines choses. Ils m'ont dit oui. Donc, on est venu chercher donc les meubles. Et ben, vous pouvez venir, ben, madame Contigny, elle les voit tous les mois, puisque dans la salle du conseil municipal, ben, toutes ces livres-là. Avec
ah oui, vous avez récupéré les livres.
Donc
avec
on a récupéré les meubles avec une partie, hein, pas tout, mais une grosse partie de livres avec les meubles. Bon, et là, malheureusement, j'ai personne qui veut reprendre, et puis il faut une salle. Donc là, actuellement, on a. En période de réflexion, depuis 5 ans, hein, on a le temps de réfléchir. Ouais. On en parle avec Mme Contigny. On veut faire une mairie neuve, parce qu'on a une mairie qui est pourrie, qui a 17 escaliers, je crois, pour dangereux. On ne peut pas avoir ses handicapés. Hein, enfin, bon. Alors, on est en train de méditer. Donc, pour l'instant, on a le terrain. Il va être borné prochainement. On a une esquisse, on a un architecte. On a un début de plan de financement. Et est-ce qu'on pourra le faire dans la mairie, avec une porte détournée, on voudrait faire un bout de square derrière avec des bancs pour que les enfants ou les mamans viennent ou ne soient pas embêtés par la circulation, fassent jouer leurs enfants, puissent avoir accès à un petit morceau de bibliothèque, hein, puisqu'on peut avoir aussi accès avec Dijon, le civil des Poisses. Donc, que les personnes, au lieu d'aller à Époix chercher des livres, ils aient quelque chose sur place à tout prix. Alors, bon, pour l'instant, elle veut faire dans les 40 et quelques mètres carrés cette pièce pour mettre des livres, faire cette bibliothèque, mais on ne sait pas, au niveau du coût, comment on va pouvoir, est-ce qu'on pourra l'intégrer ou pas dans la mairie. Voilà, au niveau de la bibliothèque.
Par contre, la guinguette, pourquoi qu'elle s'appelle la guinguette?
Alors là, la guinguette, c'est une vaste histoire aussi. Une vaste histoire. Ça aussi, c'est les ouvriers de Montzon. Ça, c'est les ouvriers de Montzon, oui. Et c'est pour ça qu'il y a eu un... Bon, pour ceux, il y en a qui m'aiment en tant que maire, il y en a qui ne m'aiment pas. Mais ça, c'est pas le problème, parce que j'ai eu une bagarre assez virulente avec le maire de l'époque. Et moi, j'étais premier adjoint, c'était M. Blondeau. Et quand on a... J'avais donné certaines directives, moi, connaissant les lieux, je dis, bon, ben, écoutez, moi, je veux bien... être derrière, mais bon, attention à ça, attention, faites comme ça. Bon, il voulait avoir les coulées franches, donc un jour, je lui dis, ça serait bien qu'on puisse réhabiliter. Non, et là, il est parti sur raser carrément et refaire une salle neuve. Ça coûtait, je me souviens, c'était en francs, hein, il fallait des millions et des millions de francs pour réaliser. Je voyais ça un petit peu utopique. Et puis, cette salle, elle est. pas à distance par rapport au pré. Donc si on les on l'enlevait, il fallait qu'on la déplace pour être à la distance par rapport au voisinage. Donc je voyais un peu ça, et puis beaucoup d'argent, puis à l'époque on avait il y avait de l'endettement, et puis voilà. Donc moi je voyais pas, donc on s'est bagarré, et puis c'est venu que on s'est séparé, quoi. Donc c'est là que j'ai pris la place. Alors les conseillers m'ont dit, bon ben voilà, tu es d'accord. Je dis, oui, alors qu'est-ce qu'on va, on va commencer par faire quoi? Mais j'ai dit, on a une usine relais qu'on va vendre, il va falloir qu'on désendette, et puis il va falloir qu'on s'occupe de la salle des fêtes de la Guinguette, pour répondre à votre question. Donc la salle des fêtes de la Guinguette, on a réparé le toit, on a fait un bar, on a encore plein de choses à faire. Là, prochainement, on va faire un gravillon lavé devant pour avoir un accès encore plus, je pense aux handicaps, pour les personnes qui veulent venir, par exemple, au 14 juillet, au repas, de pouvoir rentrer et pas être dans la boue. Hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà, alors là, la Guinguette, elle a été sauvée avec peu d'argent. Et j'ai été aidé par le conseil général, bien sûr. Et ça, je les ai remerciés parce que, au lieu d'en casser des millions, on l'a fait. Bon, c'est sûr, c'est une salle, mais il y en a qui dire aussi, un petit peu comme la cité du haut, c'est une porcherie, on m'a dit.
La Guinguette. Non, les
bon. Côté méchant, mais laissons ces choses-là, mais elle sert bien. Moi, j'étais au couscous samedi dernier, il y avait environ 120 personnes. Je crois que, justement, ça mélange bien le rang, il y avait un petit orchestre derrière, c'est très bien. Donc, pour répondre, finalement, pourquoi la Guinguette, c'est parce qu'à l'époque, c'est tous les ouvriers de Monzon qui avaient des mobilettes ou qui n'allaient pas à la foire à Vallon, ben, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire un jour? Donc, il y a un monsieur qui s'appelait André Grange, qui était un meneur, et ce meneur, il a drivé tous ses ouvriers, il a fait des cavalcades, il a fait des choses, et il a fait les fêtes de l'eau du 15 août, avec défilé de chars sur l'eau.
Ouais, les chars sur l'eau.
Alors, au début, il y avait, on a fait, parce qu'il dit, oh, ben, tiens, on va lancer après, bien sûr, on finit par la fête, mais il n'y avait pas de parquet, donc ils ont monté un parquet là où est la Guinguette. Après ça, ils ont, avec peu de moyens, ils ont récupéré des poteaux de téléphone. Donc il y avait des charpentiers, il y avait un petit peu de tout dans la. Il y en a qui travaillaient à Monzon, peut-être au modelage. Donc ils ont scié, ils ont découpé tout ça. Ils ont fait une charpente là, ils ont mis de la tôle ondulée là-dessus. Bon, ben c'est là que ça devait être porcherie à l'époque, d'accord. Mais moi je pense que ça a très bien servi. Et j'ai dit André Grange, comme vous voyez, je le cite souvent André Grange, parce que c'était un driver. Et la salle, ils l'ont pas. Comme elle était au bord de l'eau. Comme c'était les Guinguettes, région parisienne où chacun dansait la java, eh bien, ils ont dit, oh ben tiens, on fait la fête de l'eau au bord de la Guinguette, on va danser à la Guinguette. Et puis ce nom de Guinguette est resté. Jusqu'au moment où, on en a parlé avec Madame Robert quand elle était maire, moi j'étais première adjoint à l'époque, Madeleine Robert, elle me dit, ça serait bien que l'on donne le nom de ce monsieur à la salle des fêtes. C'est pour ça que si vous allez à la salle, vous avez une petite plaque à l'entrée qui est marquée « Salle André Grange ». Mais vous en parlez à tout le monde, il faudrait le garder, cet André Grange. Moi, à mes yeux, c'est très fort, ce monsieur. Mais vous n'enlèverez jamais le nom de la Guinguette. Vous avez des gens qui téléphonent pour des mariages, choses comme ça. Ils disent, la Guinguette, est-ce que là, ils ne parlent même pas de la salle des fêtes, ils ne parlent pas de la salle André Grange. Ils parlent de la Guinguette. Voilà. Alors voilà pourquoi ce mot Guinguette est venu donc, de l'époque où ils ont dit, allez, on va faire la fête de l'eau sur les bords de la Seine. Ils avaient même baptisé à l'époque, puisqu'il y a l'ancien pont du chemin de fer, ils avaient baptisé au bord de la Guinguette, au pont des sourires. C'est pas beau, ça.
Ah, le pont des sourires.
Ah, ben voilà.
Je m'entends du
voilà la Guinguette au pont des sourires. Alors, quand vous envoyez dans un certain âge, comme ça, oh, ben, quand on allait à la Guinguette, oh, ben, on allait danser, on allait embrasser les filles là-bas, on allait flirter là-bas. Alors, il y avait tout, et au bord de l'eau, il y avait le pont.
Il y avait la nature.
Je voulais vous demander, il paraît qu'à Monzeron, là, derrière, où il y a les anciens vessies, il y avait un ancien cimetière. Vous n'êtes pas au courant? Ah non, ben, c'est des trucs qu'on a.
Non, derrière, là, c'est dommage que ce n'est pas défriché d'ailleurs. Ouais. C'était le jardin du directeur.
Voilà, on allait chercher les frais.
C'est le jardin du directeur où il y avait une vingtaine de mètres de châssis, comme on appelle, des couches pour faire les semis. Mm-hmm. Hein, il y avait un beau puits à l'intérieur avec la margelle. Mm-hmm. Hein, ah, il y avait un beau puits. Il y avait une petite cabane vitrée. Enfin, ouais. C'est plus qu'une cabane. vitrée où le jardinier avait tout son matériel qui était à l'abri. Il y avait deux jolis portails, un portail d'entrée qui était magnifique et tout. Alors le soir, le directeur, et moi j'étais gamin, donc c'était M. Feuchot qui était son jardinier, et il avait un petit jardin à côté. Et moi j'habitais juste en face. Alors je faisais du vélo, je rentrais en vélo. Les vélos qu'on essayait de trafiquer comme on pouvait, un vélo avec une roue qu'on ouvrait à droite, une roue à gauche. Alors je faisais le vélo et je rentrais avec Edgar Lombard, qu'on faisait tous nos tours. On rentrait, on montait à deux sur le vélo, bon, comme ça se fait maintenant, mais bon. Hein. Et on rentrait dans le grillage, quoi. Alors quand ils nous voyaient, ça faisait vilain, quoi. Mais je me souviens que quand il montait, c'est rare qu'il avait son chapeau quand il allait au cimetière. Oh, au cimetière. Qu'il allait dans son jardin, mais il allait toujours même dans l'usine, toujours son chapeau, M. Genblut. Et quand je le croisais, bonjour monsieur, parce que attention, on dirait l'instituteur, si on n'avait pas dit bonjour au directeur, il le savait. Hein. Et puis les parents, c'est pas comme maintenant. Hein, on faisait, alors, bonjour monsieur le directeur. Bonjour mon grand. Bonjour mon grand.
Avec le salut.
Bonjour mon grand. Et ça c'est des méthodes qui s'en vont. Hein, bon c'est bien loin maintenant. Hein.
Vous connaissez des légendes sur les rochers de Sainte-Catherine?
La légende sur les rochers de Sainte-Catherine. Ah oui alors là mais là on déborde de on s'en va sur vieux château.
La légende de la Boeufnie là vieux château.
Bon, les Boeufnies, il y en avait un petit peu partout. Hein.
Ouais.
Sur Sauvigny-le-Boréal, moi j'ai fait un article, quand je faisais des articles au bien public, je l'ai fait pendant 16 ou 17 ans, j'ai fait la correspondance, et j'avais fait un article avec ma fille que j'avais mis dans la grotte, et c'était en descendant Sauvigny, il y a une grosse cavité, puis je l'avais mis dedans, j'avais fait la photo pour illustrer l'article. Et je pourrais vous en faire une photocopie. Donc on a dit, mais bon, c'était du sel et du poivre, et on avait son grand balai, et puis,
oui,
alors
voilà.
Pour ça...
Mais c'est des choses qu'on racontait, ça, ou...
C'est des légendes, mais c'est ce qu'on disait aux enfants, pour ne pas s'approcher de la rivière, ou... Et comme si on était dans la vallée, ça faisait, il y avait des échos, alors... t'entends la Boeufnie? T'entends? Ah, ouh! Alors enfin, ouh! Tu vois, elle te répond, t'approches pas de la rivière. Ouais, je pense que... Ouais.
Et c'est quoi ces histoires de poivre, alors? Qu'est-ce qu'on racontait à ce sujet-là?
Ah ben, pour le mauvais sort, pour qu'elle ne jette pas de mauvais sort, il fallait jeter tu en mets un peu de sel, un peu de poivre. Poivre, c'est peut-être plein, mais du sel. C'était la croyance, quoi. C'était la croyance.
Et par rapport à cette cavité, à Savigny-le-Boréal, là?
Pour ceux qui connaissent le Grand Gour... Parce que là aussi, on parle de quand le bois est arrivé, et l'électricité, c'était très très faible. Pourquoi il s'est implanté ici? C'est parce qu'il y avait le serin. Et le serin, il a fait de la houille blanche, quoi. Donc il a fait le canal, il avait sa turbine, il faisait sa propre électricité. Et il a fait deux barrages, donc le petit gour, qu'on appelle le grand gour, successivement pour amener de l'eau au moulin, comme on dit. Alors là, c'est resté. Alors, il y a une grande promenade où, au mois de mars ou avril, selon le temps, mon père allait chercher les jonquilles et il emmenait ça au fils.
On est allé, on est allé, on est allé,
on est allé.
Voilà, les jonquilles, tout ça. Ouais. Donc, vous connaissez tout du secteur. Quoi. Alors là, en remontant, on remonte sur Sauvigny, donc c'est là qu'on a fait un chemin pédestre. Bien que, je vous le dis, mais c'est vous qui allez en Beauvoir. On va le réparer une unième fois, mais on a fait des protections sur la petite passerelle pour aller du petit cours au grand cours. Sur la petite passerelle, donc on nous a scié notre balustrade de protection.
Non.
Donc deux fois. Donc là, il va falloir qu'on y retourne la faire. Donc il n'y a plus de protection, surtout pour les enfants. Et puis donc c'est un chemin pédestre qui rejoint Sauvigny-le-Boréal. Mais mon rêve, pour vous répondre, madame, ce serait d'avoir notre chapelle réparée avec un petit musée, un petit circuit touristique qui part sur le petit gour, le grand gour, des lestages sur Sauvigny-le-Boréal avec un petit panneau légende de la Boeufnie, avec voilà, et puis recontinuer en montant sur Vieux Château, en longeant le serin, Et là, vous arrivez au pied des roches Sainte-Catherine.
On est allé se promener ensemble.
La Sainte-Catherine, pourquoi la Sainte-Catherine? Vous connaissez la légende?
Non.
Ben, c'était une jeune fille qui était poursuivie par les garçons. Et puis, ben, elle n'a pas voulu se faire prendre. Et puis, ben, elle est arrivée au-dessus du rocher. Et puis, bon, il y avait le vide. Et puis, elle s'est lancée dans le vide. Et elle est arrivée au bord. Bon, ses mains ou ses pieds, je ne sais plus. Elle est restée gravée dans la pierre ou dans le sol. Voilà. Allez, la roche Sainte-Catherine. Voilà, ça c'est ce que j'ai recueilli. Mais chacun va peut-être être une légende, donc chacun va de...
C'était une jeune fille,
Une jeune fille, oui.
Une princesse,
Non,
des chevaliers ou des choses comme ça.
Ça c'est ce qui se raconte. Oui, quand on est jeune fille, on est tous princesses, on est tous. Hein. Les jeunes filles, sont toutes belles, de toute façon. Elles sont toutes belles, les jeunes filles. Mais là, il est tiré de ce livre-là, Vieux Château.
Voilà.
Et ça fait
10
ans
de
revoir Vieux Château qui s'est exposé sur la Sainte-Catherine.
Mais est-ce qu'il y a un rapprochement entre les lieux, entre l'histoire du château de Bourbouilly et Poisse
et ici.
Au niveau des temps des chevaliers.
Alors là, je ne peux pas répondre. Je sais qu'il y a au château de Beauvoir, oui, mais qui est sur Lyon, là. Il paraît qu'on y allait quand on était gamin, mais on nous interdisait parce qu'il est éboulé, le fameux tunnel. Bon, il y aurait un tunnel qui aurait rejoint le château de Ragny, hein, avec le château de Beauvoir. Mais alors là, peut-être. Bon.
Il y a un tunnel, on n'a pas pu aller plus loin, ça s'écroule.
Voilà.
On a fait
demi-tour. Ah oui, non, mais c'est très dangereux. Ah non, c'est très dangereux. Là. Donc ouais. Bon. Mais non, pour moi, il n'y a pas de rapport. Peut-être qu'un jour, il y aura des fouilles, on ne sait pas. Hein. Après, quand vers Saint-Gétorix, ça fait là-haut. Mais bon, il y a un gros projet sur la
mer. Allez-y. Par rapport à Montseron, il n'y a pas autre chose qui pourrait nous, dans l'ancien, qui pourrait nous en savoir un peu plus
Ah ben déjà, si vous travaillez depuis le début de l'histoire de Montseron, c'était les hauts fourneaux. Et au fourneau, donc c'était le comte de Guiteau.
Oui, voilà.
Donc le comte.
C'est un lien avec la personne qui a le château des Poisses.
Voilà, tout à fait, c'est les descendants. Donc j'ai pris contact avec mademoiselle de Guiteau et une dame de Guiteau, mais ça fait 3 fois que je remets, puis je n'y vais pas, soit elle n'a pas le temps, soit moi je suis pris, parce que j'aimerais qu'elle me donne des documents et puis qu'elle me raconte des choses aussi pour que je puisse commencer mon petit livre, mais mon épouse m'a dit non, tu seras mort avant, tu le feras jamais. Bon. Alors j'ai un défi qui est lancé là.
Sur les
hauts
fourneaux de Montseron, c'était donc ça remonte en quelle année ça c'est la première existence de Montseron en fait.
Hein. De tête, hein, mais je peux vous redonner les dates si j'ai déjà écrit tout ça. Ça doit être 1835. De tête, hein, 1835. Donc il y a eu. Et j'ai des documents qu'une dame m'a fournis sur donc c'est au fourneau. Il y a eu des tas de et comme maintenant il n'y avait plus d'argent, donc on allait emprunter, donc c'était des personnes qui devaient renflouer, après ça replongeait, jusqu'au jour où moi j'ai eu le Jean de Guiteau, j'en ai parlé un jour avec lui. Et il m'a dit, j'aime pas trop parce que. Ah, il me dit, mes ancêtres, ils se sont ruinés à Montseron. Donc c'est vrai que ça. Et puis après, c'est de là, ça a été 1800. Après, c'était refait par. C'était repris par Don Bouet. Par Philippe Bouet, après ses fils. Dommage que cet homme est décédé trop jeune. Ouais, décédé trop jeune.
Et par rapport aux années qui passent, qu'est-ce que vous en pensez de Montseron dans 20 ans?
L'avenir de Montseron, moi je l'ai pris à bras le corps quand ça a été fermé complètement, à mon grand désespoir. J'y venais tous les jours, mais toutes les semaines je venais faire mon tour. Et je me dis, c'est pas possible qu'on arrête un lieu. Moi j'arrive de Dijon, là, c'est pas possible. On concentre les gens dans des villes, au 8e, 10e étage et tout. Il y a de tout, il y a les piscines de Dijon, j'ai mes petits-fils. Mais qu'est-ce qu'on est bien à la campagne? On découvre tout à la campagne. Mais qu'est-ce qu'on va aller. Ah ben oui, mais les jeunes femmes ne veulent plus venir habiter, tout ça. C'est pour ça que je suis venu à la réalité. Je me dis oui, mais je ne vais jamais sauver Montseron. Bon, c'est pas de ma science, hein. C'est quand il n'y avait plus rien, j'étais toujours resté en contact avec l'ancien directeur, ou son fondé de pouvoir, M. Avégère, et Calouart, M. Avégère et Calouart. Et souvent, le portable, allez, vous avez des nouvelles, vous pensez, est-ce que vous avez, ben on va retrouver un preneur et tout. Alors, toujours. Et puis un jour, il s'est trouvé, bon, peut-être une coïncidence, il est venu dans le secteur pour faire des investissements sur la Bourgogne. Et puis, il a dit, bah, tiens, j'ai une usine là, c'est pour faire des tôles, ça peut convenir et tout. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, quoi. Beaucoup de chance. Donc, j'ai rentré en contact, j'ai fait venir les politiques de tous bords, de toutes tendances, pour essayer de dire, il y a un potentiel, essayer de faire prendre la mayonnaise. Bon, ils n'ont pas été trop aidés de ce côté-là. Par contre, nous, le conseil municipal, on les a exonérés 2 ans de taxes professionnelles pour pouvoir qu'ils s'implantent et puis qu'ils restent là. Bon, pour l'instant, c'est des gens, pour moi, très honnêtes. Ou je veux dire, pour la chapelle et tout, on a eu de très bons, mais bon, l'investissement reste en investissement. Hein, mais leur promesse était tenue. Quand ils ont démarré, ils m'ont dit, direction comprise et tout, on va démarrer à 7 personnes. Au bout d'un an, on sera 15 personnes, on montera 20, 25, 30, jusqu'à une cinquantaine de personnes. Ça, c'était leur parole. Bon, au bout d'un an, ils étaient 20. Là, ils sont montés à 25. Bon, là, il y a des problèmes maintenant de, bon, les commandes. Bon, je l'ai revu dernièrement, là, il n'y a pas longtemps, puisque c'était lundi matin que j'ai appris ce qui s'était passé à Monzon.
Oui.
Donc, je suis venu en catastrophe quand même
le
voir.
Ah oui, c'est ça, c'est bon, ça.
Donc, c'est dommage, quoi, qu'il y en a qui veulent... Parce que là, je ne pense pas que ça soit pour le vol. Hein. Moi, c'est de la destruction, c'est du piratage, c'est de tout. Hein. Moi, je suis ressorti, mais c'est pas possible, quoi. Les bureaux retournés, hein. Et tout était vidé, hein. Tout était vidé. Les portes à coups de pied dedans, les portes en poste formées comme ça, il y avait des bons comme ça, et tout ouvert. Les chambres à la clé de biche comme ça, tout ça, c'est sauté et tout. Hein. Donc, bon, je crois qu'on a autre chose à faire aujourd'hui. Alors bon, c'en est là. Donc, aux dernières nouvelles, il m'a dit, bon, il y a eu un bon mois, là. On est content, donc ben, on croise les doigts pour que la crise de 2009, voire 2010, ça reprenne, quoi. Et puis qu'on conserve ce site, c'est pour ça conserver l'avenir. Oui. Les Monzons, ben, l'avenir, s'il ne dépend pas ni de moi, ni du maire de toute réactuelle, ni de celui qui viendra. Oh, si, simplement qu'on peut aider, on peut voir ce qu'on peut faire pour faire prendre toute cette mayonnaise. Mais la décision, après, c'est les investisseurs, c'est les capitaux. Bon, il y a eu plein de choses échafaudées. Il y en a auxquelles on rêve. Bon, si ça arrive, je suis très content. Et puis, surtout pour le site. Mais s'il y avait cette chapelle, c'est vrai qu'on ferait une grosse fête, quoi.
Oui, c'est clair.
Il faudrait la fête, hein, je crois qu'il y aurait du monde. Hein.
Au niveau de la chapelle et de la salle que vous parlez... La commune ne peut pas reprendre ces édifices, si on peut dire, pour que ce soit la commune après qui puisse faire avec les subventions, des travaux, des choses comme ça.
C'est très juste ce que vous dites.
Et que ce soit plus,
c'est très juste. Donc je vous réponds sur la chapelle. Parce qu'avec la société Aristoire, donc où je faisais partie au niveau de la commune avec François Sauvadet, on avait la possibilité d'avoir des subventions. Mmh. Et moi j'ai posé la question au PDG. Je dis, la chapelle, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pourriez nous la rétrocéder avec le pont pour faire un mariage avec le secteur? Il m'a dit, non, je la garde. Je vais la rénover. Non, c'était ses... Donc, j'ai abandonné. Voilà. Et puis, on en a parlé, mais ce n'était pas avec lui. J'en ai parlé, mais il n'a pas pris de décision. Mais c'était avec ses prédécesseurs. Mais il nous la vendait... À l'époque, bon, je vais vous dire en centimes, 20 millions, vous allez la convertir, c'était 20 millions de centimes. Hein, 200 000 francs qu'ils nous vendaient dans l'État. Donc, nous, commune, il faut gérer, désendettement,
oui, puis,
la guinguette, entretien de la guinguette, assurance de la guinguette, la remise aux normes.
Mille clubs. C'est pas tout là.
Pardon.
L'acheter, c'est pas tout là. L'investissement,
on peut toujours. Dans toute chose, hein. Les gens disent ah, oui, on a l'investissement. Moi, je vous fais tous les investissements que vous me demandez. Par contre, après, il y a le fonctionnement. Il faut mettre le personnel, il faut gérer, ça, le fonctionnement, le coût, l'électricité, le chauffage, et j'en passe. Voilà, alors...
Mais ils ont quoi comme intérêt à vouloir la conserver, cette chapelle?
Moi, je ne comprends pas qu'une chapelle puisse appartenir à...
Privée. Cette chapelle est privée.
Voilà. Ah, elle est privée.
Cette chapelle est privée. Elle appartient...
Dans les châteaux, il y a des chapelles privées aussi.
À mon avis,
ah ben, on peut tout faire, hein. Ah non,
je croyais pareil comme
pas les chapelles, mais pas les chapelles, justement.
Voilà, j'étais persuadée de ça aussi.
Non, vous pouvez avoir une propriété avec une petite chapelle où, vous allez prier et tout, mais c'est votre propriété, c'est vous qui l'entretenez, c'est vous qui payez les impôts, s'il paye des impôts sur la chapelle.
Parce que là, on n'a plus le droit d'aller la voir, on ne peut plus y avoir accès.
Non, on pourrait y aller. Moi, si vous voulez, un jour, je peux avoir les clés et puis vous la faire visiter. Mais... vu comme vous l'avez vu, et puis vu comme ils l'ont mis à l'intérieur... ils ont tout cassé, quoi. Il y avait des bancs que je voulais récupérer en accord avec le directeur pour remettre sur l'église de Toutry. Moi, quand j'y suis allé, il n'y en avait plus, quoi. Il y a le... Où c'est que les demoiselles, ils vont... C'est le confessionnal, ça doit s'appeler comme ça, je crois.
Pourquoi les demoiselles?
Hein? Ben, nous, on n'a pas Ah, mais c'est vrai, là, il n'y a plus de confessionnal. Il n'y a plus rien. Là, vous ne pouvez plus rien dire, mesdames. C'est dommage, non, mais c'est vrai, on rigole, mais ça fait mal. Quoi. Ils n'ont pas trop touché l'hôtel. L'hôtel n'est pas trop ici. Ils ont arraché la. Parce que là où on met les hosties, là, le petit verdant. Là, il y a eu des vitraux de cassé aussi. Donc là, c'était une plaque en cuivre ou en bronze. Donc tout ce qui était un peu, ils ont arraché tout ça. Donc, c'est mais si un jour vous voulez, je demandais au directeur de prendre la clé. Et donc, on avait tout fait renforcer. Et puis, ils ont mis un truc. Bon, comment vous dire, c'est plus que de l'acier, quoi. Pour essayer de ne pas pouvoir le couper avec une disqueuse, ils ont mis un gros câble. Apparemment, ça ne bouge plus. Apparemment. Mais bon, il n'y a plus guère à faire maintenant, il n'y a plus rien à prendre. Il n'y a que casser.
Mais bon. Alors, si je comprends bien, quand les Japonais sont arrivés, c'est comme si un peu le hameau avait fermé, quoi. C'est on imagine une commune, et ben un jour on ferme la porte, quoi. C'est ça.
Tout à fait.
On pouvait plus aller, prier, on pouvait plus aller à l'école,
tout s'en va, tout est parti.
Et puis tout au lendemain un peu, parce que quand les Japonais
sont arrivés, les Japonais n'avaient plus le droit d'aller à Beauvoir, rien. Ouais, puis passer par l'usine.
Ah oui, donc ça, moi, j'ai pas pu rattraper non plus.
Ils ont tout foutu en l'air, quoi.
Parce qu'il y avait encore une école avant qu'ils reprennent. Il y avait encore une école, elle était déjà fermée.
Non, non. L'école, le groupe scolaire de Toutry a été construit en 1971. Enfin, la rentrée, c'est de mes souvenirs, son nom, ça doit être le septembre 71. Est-ce qu'il y a oui, il y avait eu, je veux pas dire des problèmes avec le maire et le directeur, mais. C'était plus, il n'y avait plus de normes de sécurité, il y avait plus d'autres choses qui... Voilà. D'autres choses qui sont intervenues. Donc, la municipalité a dit, on va tout regrouper. Surtout que, Monzon a fondé, il n'y avait plus les 8 gosses, 9 gosses, et puis les grandes familles. Mais voilà.
Bon,
à une midi 20. Regardez.
Est-ce que vous avez toutes posé vos questions?
Il y a toi et Nicole, je crois.
Ah, oui, c'est bon.
C'est Nicole.
Les roches de Saint-Catherine, mais est-ce que vous connaissez d'autres roches ou dolmens sur le secteur ici qui auraient des légendes?
Oui.
Ah.
Oui, le dossier sur le bureau depuis 2 mois, il fallait que je leur réponde. Il y a la Croix des Ormes, sur Toutry. La Croix des Ormes, oui, il y a des souvenirs. Et puis, il y a les dolmens, on appelle ça au Poron des Soufiouf. Pourquoi le Poron des Soufiouf? C'est un mot morvandu, au Soumagané. Au Poron des Soufiouf. Donc là, ça appartient à la Société des Sciences. Et j'ai le dossier sur mon bureau, mais je ne l'ai pas ouvert encore. et je vais m'excuser auprès de ce monsieur parce qu'il me propose, ils m'ont arrêté. Ils m'ont arrêté, ils ont peut-être 15 heures ou je ne sais pas, 10 heures ou 15 heures. Donc les agriculteurs, ils labourent autour. Et puis, bon, ce dolmen, il n'y en a que près comme la table. Alors, ils vont arriver à tout casser, quoi. Alors, ils me proposent de les enlever et puis de les mettre dans un autre endroit. Avec bon, un petit truc en expliquant voilà, d'où c'est à venir. Alors, il y a une longue histoire, mais la Société des sciences de Semur en Auxois, elle est à même de nous donner toutes les informations. Donc, moi, j'ai déjà prévu un endroit dans le village qu'on possède pour mettre ces pierres, avec un petit truc, hein, un banc, et voilà. Mais oui, il y en a peut-être d'autres, hein, mais alors, ça, je pense que...
Où est-ce qu'il se situe
ces dolmens, là?
Oui.
Alors, les dolmens, vous prenez la route de la barre, qui n'est pas très bonne, et après, vous allez vers la ferme de chez Tupigny, anciennement, vous le connaissez. Bah, vous passez devant la ferme chez Tupigny, vous allez au bout, vous tournez à droite, au fond, au lieu de remonter sur la maisonnette, et à droite, vous remontez dans les champs, et vous regardez sur votre gauche, il y a les friches, et au milieu du champ, vous avez des grosses pierres. Voilà, c'est un jour, vous allez vous y promener.
Et vous pensez que la Société des sciences, ils ont retrouvé des récits sur ces pierres?
Oui, mais bon, j'ai pas eu accès à tout ça, puis bon, ils veulent arrêter. Hein,
et comment est-ce que nous, on pourrait les faire raconter, ou les lire quelque part, ces récits sur ces pierres?
Bon, moi, je vais rappeler ce monsieur-là, et puis peut-être qu'il pourra vous donner... Moi, j'ai un cousin qui aimait bien ces choses-là, Jean-Pierre Crétin, qui aimait bien aussi, qui a joué là-bas aussi pas mal. Hein, lui, c'était sur la Croix des Ormes, le pont des Soufiou, dans ces secteurs-là, la maisonnette, la ligne du chemin, l'ancienne ligne de chemin de fer et tout. Puis nous, c'était plus sur Beauvoir. Voilà. On joue aux cow-boys là-bas, dans les roches. Ah. Eh bien, ça c'est les bons souvenirs. C'était sain. Voilà mes petites dames.
Merci bien de nous avoir.
Vous couperez des choses si c'est enregistré, hein. Vous couperez certaines choses.
Hein. C'est pas comme ça livré.
Ah non.
ce sera un montage qui sera fait, mais surtout sur la thématique des légendes, des pierres, et puis des lieux aussi, c'est-à-dire expliquer un peu que Monzeron, depuis combien de temps ça existe, qu'il y a une usine, parce que les gens de Monzeron le savent, mais les gens de La Roche-en-Brenil, pour eux, c'est pas évident, quoi. Pour laisser une trace un peu de cette histoire. Quoi.
Voilà, donc s'il y en a qui ont des choses sur Monzeron, des cartes postales, j'en ai une cinquantaine. Hein. Donc je vais faire une exposition justement un jour. Mais bon. Ou quand, tout le Monzeron. Voilà, mais moi je suis preneur de tout ce qui est tout ce qui a attrait à Monzeron. J'ai récupéré les grosses pinces de la forge, parce qu'il y avait une forge aussi, on forgeait les outils. Les grosses pinces. Donc j'ai une grosse pince, alors tout ça mériterait d'être mis avec un petit papier. Et puis, un petit circuit, vous avez du monde, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, il fait beau, on va marcher, tiens, on va faire un tour, tiens, on va y voir le musée. Les gens, ils ne connaissent pas, voilà. Ah, en telle année, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des fraiseuses, voilà la fraiseuse.
C'est toute une histoire.
C'est toute une histoire, oui.
Et alors, si je peux vous poser une dernière question, c'est une question pas facile, mais pourquoi on voit bien que vous avez envie de garder cette histoire-là, de garder cette mémoire. Alors, pourquoi est-ce qu'on a envie comme ça de conserver les lieux qu'on a connus avant?
Très fort. Comment l'expliquer? C'est un monde d'ouvriers, c'était dur quand même. Quand vous voyez des familles qui n'avaient pas... Aujourd'hui, on se plaint sur tout. On vous coupe l'électricité pendant 10 minutes, tout le monde hurle. Hein? Là, c'est des gens qui vivaient, qui venaient travailler de du château Bomberto d'Autour, mais de la cité du Haut, non, rien. De la cité du Haut, on descendait à pied avec une paire de sabots, ce qu'on avait. Bon, ces gens-là, je n'ai pas dit qu'ils étaient exploités, parce qu'on était heureux comme ça. Parce que quand on sortait le soir, qu'est-ce qu'on faisait? On allait dans le jardin. Tout le monde avait son jardin. Tout ça, c'était cultivé.
Ça, c'est clair.
Il y avait une entraide, malgré certaines jalousies. On n'en aura pas il y a 50 ans. Il y en aura toujours. Moi, je crois qu'il y en a même de plus en plus, mais moins. Mais moi, je me souviens où il y en a qui étaient bons en plant de tomates. Bon, ben, il le passait à son voisin, il dit, tiens, ben, tous les ans, il savait qu'il a 15, 20 pieds de tomates. L'autre, il faisait de la salade, il s'échangeait les choses. Ils allaient à la chasse ensemble, ils allaient à la pêche ensemble, ils partageaient les choses. Et puis bon, ben, moi qui étant, depuis 4 ans, hein, j'ai vu l'évolution de ce monde ouvrier, je me dis... il faudrait quand même qu'on explique quand même à ceux qui viennent derrière, parce que moi je crois avec mes petits-enfants, ils sont trop gâtés, quoi.
C'est pour garder une mémoire de cette vie, en fait, aussi.
Ah oui, garder la mémoire. Comment on vivait à cette époque-là et moi, là, maintenant, moi le premier, il fait pas chaud chez nous. Ah ben oui, tiens, vous faites un feu de cheminée, ah ben, vous montez le chauffage, on tourne le bouton, ou... maintenant, même plus le tourner, maintenant, on va faire ça, crap, on va avoir 21, on va avoir 22. Moi, ma grand-mère, elle se levait à 5h le matin.
La cheminée n'était pas allumée. Hein.
Ben, elle faisait le feu.
Voilà.
Me préparait mon déjeuner à 5h du matin. Et quand je me levais, ben, dans la chambre, eh ben, il y avait des fleurs sur les vitres. Hein. Vous avez tous connu. Hein.
Ah, c'est... Oui.
Ça, c'est caractéristique. Vous aviez les fleurs sur les vitres. Hein. Ben, aujourd'hui, ben, si vous aviez 15 degrés ou même moins dans la pièce, qu'est-ce que vous diriez? Ah ben non, il faut qu'on ait chaud, alors on tourne.
Il y avait le dîner qui mijotait depuis le matin pour midi.
C'est ce que je disais au début. C'était pas de la cuisine aux ciseaux, ça. Les tartes au flan qu'on faisait avec un tuyau de poêle où on mettait le bois, les grosses tourelles. On mettait
ça. Gâteaux, je me rappelle,
avec les gros gâteaux. Ben voilà, ça c'est.
Et alors pour vous, en fait, pour pouvoir garder souvenir de la vie d'avant, c'est important de conserver les lieux aussi.
Ah oui. Ah ben c'est ça, c'est.
Oui.
Bon, qu'est-ce qui se métamorphose, c'est normal. C'est ce que j'ai essayé de faire avec la guinguette. La guinguette, elle se ressemble, c'est plus la guinguette d'il y a 40 ans, ce que nos anciens ont fait. On a fait la charpente, on a changé plein de choses. Mais faut pas leur dire, allez, on vous rase tout. Pour moi, raser, ça veut dire, ben, je sais pas moi, mais...
On efface tout.
Ben, disons, attendez, ces gens-là, ils ont travaillé pendant des années... Ils ont donné de leur temps, leur machin. On leur efface tout aujourd'hui.
Non,
même si on transforme les choses, il faut leur faire comprendre qu'il y a encore leurs traces de leur travail resté sur le bâtiment ou sur ce site. C'est ça l'important. Leur dire, ben, il y a une roue où c'est que... Bon, ben, elle est là, il faut la conserver, ce que j'ai le directeur. Il faut la mettre en premier. Après, il faut mettre une machine. Après, si je trouve un motoculteur, je l'achète. N'importe qui, mais je l'achète. Parce que c'est le motoculteur Somua, il y en a, on n'en trouve plus maintenant. Mais il faut le mettre là, il faut dire, ben voilà. Et ça, faut que chacun s'y mette, il faudrait un groupe de travail qui travaille là-dessus. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci d'être venu jusqu'à nous. C'était très gentil de nous avoir parlé. On a partagé un bon moment, je pense, ensemble, de souvenir. Et puis ça a fait.
On a beaucoup de racines d'attache par rapport à nos.